Tous les regards seront tournés en cette fin de semaine vers Bruxelles. C'est demain, jeudi, que les dirigeants européens se retrouveront lors d'une réunion spéciale consacrée à la crise de la dette dans la zone euro. Alors, on se pose pas mal de questions. Vont-ils vraiment s'entendre sur un nouveau plan d'aide à la Grèce? Y aura-t-il vraiment un résultat ou rien d'extraordinaire, comme l'a dit hier la chancelière allemande Angela Merkel? L'euro et la Suisse, en Suisse, le grand débat porte plutôt sur le Francfort et les moyens de lutter la contre. Sur ces deux thématiques, le plaisir d'accueillir le professeur Stéphane Garelli. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, professeur à l'IMD et à l'Université de Lausanne et encore président du conseil d'administration du journal Le Temps. Je dis ça parce qu'on va aborder aussi ce qui se passe dans l'Empire Murdoch tout à l'heure.
Oui, je m'en doutais.
Évidemment, on ne va pas vous rater sur une actualité comme ça. La réunion à Bruxelles de demain, jeudi, Stéphane Garelli, qu'est-ce qui va se passer vraiment? Rien du tout, comme le prétend Angela Merkel?
Je crois qu'elle est en train d'essayer de calmer les marchés parce que les attentes sont très élevées sur cette réunion de demain à Bruxelles. D'ailleurs, aujourd'hui, le président français Sarkozy est allé la voir à Berlin pour préparer cette réunion, ce qui veut dire qu'elle est importante. Je crois que c'est important aussi de voir que dans cette affaire, on fait preuve à la fois de myopie et d'amnésie. Vous savez, les dettes, c'est pas quelque chose de nouveau. Nous avons quelque chose qui s'appelle le Club de Paris, qui a été fondé en 1956 et qui, depuis l'époque, a fait 422 accords de restructuration de la dette avec 88 pays. Donc, on sait comment s'y prendre. Hein. Le plan Brady, en 1989, a résolu le problème de la dette du Mexique. Et au fond, les techniques existent. Hein. Et ces techniques, c'est trois choses. La première, c'est une période de grâce. C'est-à-dire, on ne peut pas s'attendre que ces pays qui sont sous la pression de rembourser leurs dettes, comme la Grèce, etc., puissent le faire immédiatement. Période de grâce, c'est 3-5 ans pendant lesquels on ne leur réclame.
Mais on
ni
l'a pas,
remboursement.
On l'a pas accordé à la Grèce.
On l'a pas accordé, mais on doit le faire. Ça, c'est ce qui ressort de tous ces plans de restructuration qu'on a fait dans le passé.
Donc, grave erreur, là, de la part du premier plan d'aide.
Exactement. On ne peut pas leur demander de rembourser immédiatement. Je vous rappelle que, par exemple, les bons du trésor grec à 2 ans aujourd'hui se négocient à environ 23 à 25% de taux d'intérêt. C'est de la folie, c'est presque de l'usure. Donc, il faut leur donner cette sorte de période de bulle d'oxygène. Un petit peu comme quand vous achetez une maison ou un appartement, la banque vous dit pendant une certaine période, vous remboursez pas votre hypothèque. Vous pouvez vous retourner, mettre votre maison en ordre. Ils ont besoin d'une période de grâce. La deuxième chose que l'on a appris avec tous ces plans de restructuration, c'est que le secteur privé doit être impliqué.
Ah.
Au fond, c'est ce feu. Les Américains ont une belle expression. Ils appellent ça le haircut, la coupe de cheveux. C'est-à-dire qu'ils doivent prendre quelque part une perte. Lors du Mexique, le plan Brady, c'était à peu près 45%. En contrepartie, il faut les aider à prendre cette perte. Et il y a plein de méthodes comptables, fiscales, qui ont été inventées à l'époque et qui permettent aux banques de soutenir cela, notamment par rapport à leur bilan. Et la troisième chose, et je m'arrêterai là, mais c'est important, c'est leur capacité de maintenir la capacité de remboursement de ces économies. Aujourd'hui, la Grèce est dans une récession d'un peu plus de 5%. C'est absurde de mettre sur ce pays une telle pression de remboursement, alors qu'ils ne peuvent pas le faire. Et de nouveau, dans le plan Brady, on avait lié la capacité de remboursement, par exemple, aux exportations ou au terme de l'échange. Et puis, ça me rappelle un petit peu, il y a un très bon livre de Keynes, pour ceux qui ont le temps de lire encore cet été, 1919, Les conséquences économiques de la paix, et dans lequel il disait ce qu'on a imposé à l'Allemagne pour rembourser sa dette était tellement absurde que ça allait conduire à des révoltes sociales. Eh bien, vous relisez ce bouquin, vous changez le mot Allemagne par le mot Grèce, Portugal et Espagne, et vous avez une formidable analyse de la situation présente.
Donc, propos très clair de votre part, Stéphane Garelli, demain, une réunion qui déboucherait sur un nouveau plan d'aide, mais conditionner une politique d'austérité ne servirait non seulement à rien, mais serait contre-productive.
Elle serait contre-productive, et je crois que les marchés aujourd'hui ne sont pas contents parce que qu'ils en ont assez des rafistolages. Vous savez, on a un peu l'impression qu'il y a une cacophonie terrible au niveau européen, que l'on gagne du temps, on gagne 2 mois, 3 mois, on va de nouveau se rencontrer dans 2 ou 3 mois, pour en fait une situation qui ressemble à remplir une baignoire qui se vide. Et il vaudrait mieux essayer de boucher le trou. Donc, quelque part, les marchés sont impatients. Les marchés craignent l'effet domino. On l'a vu maintenant avec l'Italie, qui a été pour la première fois attaquée, ce qui est un peu absurde. Les bons du Trésor à 10 ans italiens se négocient à 3 fois le taux d'intérêt des Allemands, pratiquement. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de nervosité, mais aussi d'irritation des marchés vis-à-vis des politiciens, car c'est vraiment une affaire de politique.
Donc, Angela Merkel a raison d'essayer de calmer les choses.
Elle a raison et elle a tort. Elle a une grande responsabilité dans cette affaire parce qu'elle a tergiversé. Il faut le reconnaître, les grands pays européens font face à des élections et les périodes préélectorales ne sont jamais bonnes pour résoudre ce genre de problème. La France a des élections l'année prochaine, l'Allemagne, l'Italie probablement, l'Espagne, sans parler des États-Unis de l'autre côté de l'Atlantique. Donc cette période préélectorale n'est pas favorable pour faire des plans à long terme qui sont ceux qu'attendent les marchés.
Stéphane Garrelli, j'insiste sur ce point, hein, la participation du privé et notamment des banques à la facture. Alors là, il y a vraiment deux camps. Vous nous avez dit de quel camp vous faisiez partie, donc plutôt du camp qui dit oui, aussi, les banques doivent passer à la caisse. Et puis il y a la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet, qui craint que la zone euro n'implose avec les conséquences en chaîne qu'on connaît, type celle survenue il y a 3 ans aux États-Unis et les risques de contamination au monde entier. Vous excluez ce risque ?
Oui, je crois que lorsque j'ai dit les banques doivent passer à la caisse, comme vous le dites, mais elles doivent aussi avoir des mesures pour les aider à passer à la caisse. Ce qui m'étonne particulièrement, j'ai mentionné le plan Brady en 1989 fait par le Club de Paris. À l'époque, le président du Club de Paris s'appelait Jean-Claude Trichet.
Ah oui, ça aussi on l'a oublié.
Alors ça on l'a oublié, je vous ai parlé d'amnésie. Hein. Ça on l'a oublié et il sait parfaitement bien que les banques doivent accepter une responsabilité dans le repaiement de cette dette.
Alors pourquoi prône-t-il le contraire ? Il ne peut pas faire autrement au poste
qu'il
occupe.
Alors, je crois qu'il ne peut pas faire autrement. Peut-être qu'il n'écoute pas la radio suisse romande le matin.
Il a tort.
Il y a plusieurs explications possibles. Je crois que pour le moment, il est confronté au fait que les 2/3 de la dette grecque sont détenues par des banques françaises et allemandes. Oui. 2 pays extrêmement puissants en Europe. 2 pays qui sont confrontés à des élections l'année prochaine. Et je pense que sa marge de manœuvre politique est assez réduite parce qu'Angela Merkel, pour le moment, a strictement refusé cela. Mais si vous reprenez l'histoire, ces fameux 422 plans de restructuration qu'on a dans nos dossiers, dans nos tiroirs, que l'on peut étudier, on se rend compte parfaitement qu'on ne s'en sort pas s'il n'y a pas quelque part une participation du privé. Le message est écrit sur le mur, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi les politiciens n'arrivent pas à le lire.
On a l'impression que ces crises, Stéphane Garrelli, ne sont qu'un éternel recommencement. Et vous l'avez dit, 422 fois des problèmes ou des solutions par rapport à des dettes. Comment faire en sorte que cela ne se reproduise pas ou avec aussi peu d'intervalle ?
Alors, je crois qu'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que les décisions sont prises par des politiques. On a un sommet à Bruxelles avec les représentants des différents pays européens au plus haut niveau. Lorsqu'on discutait de cela dans le Club de Paris ou d'ailleurs, c'était fait par le FMI, c'était fait par le Club de Paris, etc. Mais c'était au fond des fonctionnaires, des administrateurs, des gens qui étaient compétents pour résoudre ce genre de problème.
Les politiques sont pas compétents ?
Bah, ils le sont peut-être moins que d'autres. Se mettre autour d'une table à 17, c'est l'Euroland, ou à 27, c'est l'Europe, et essayer de trouver une décision en matière de dette, il y a toujours quelqu'un qui va dire « je suis pas d'accord ». À l'heure actuelle, ce sont les Finlandais et les Hollandais qui disent « on veut pas payer pour les Grecs ». Quelque part, on peut pas gérer cela de manière appropriée. Tôt ou tard, il va falloir qu'on discute de la coordination des budgets européens à travers une institution européenne. Mais tôt ou tard, on doit non seulement parler de politique monétaire, mais de politique budgétaire européenne.
Donc il faudrait par-dessus tout ça une sorte de ministre du budget pour l'Europe ?
Alors Jean-Claude Trichet a récemment proposé la création d'un ministère européen des finances, et qui à mon avis est un terme mauvais parce que ça pourrait impliquer une coordination des politiques fiscales, ce qui n'est pas le cas. Mais un ministère européen des budgets, ou alors simplement une politique de coordination des budgets qui demanderait par exemple que chaque année les pays soumettent leur budget à une institution européenne, pourquoi pas même la Banque Centrale Européenne, qui reverrait les hypothèses, qui reverrait au fond la probabilité que ces budgets se réalisent selon les chiffres, et qui donnerait ou non son accord pour aller de l'avant. Je vous rappelle que l'OCDE le fait régulièrement pour les politiques économiques des États, hein. Ils n'ont aucune capacité à nous les imposer. Mais au fond, la publicité qui est donnée à ce genre de revues régulières est assez grande pour pousser des États à changer leurs hypothèses de budget.
Stéphane Garrelli, le franc fort, c'est aussi finalement une des conséquences de ce qu'on vit là dans la zone euro. Pour faire pression sur les commerçants, les Suisses doivent aller faire leurs courses à l'étranger ?
Bon, ça dépend ce qu'ils achètent. Si vous êtes près d'une frontière, bien sûr. Si vous voulez acheter des choses,
faut le
faire. Bien sûr, pourquoi pas. Si vous voulez acheter quelque chose qui a une certaine valeur, faites-le sur Internet parce que ça compensera certainement le prix de l'envoyer par la poste ou autrement. Et c'est pas uniquement vis-à-vis de l'euro, hein, c'est aussi vis-à-vis de la livre sterling, de tout cela. Oui, bien sûr, il faut faire marcher les lois du marché.
L'État, bon, la question est de savoir si la Confédération doit intervenir ou non. Le Conseil fédéral a décidé décidé hier encore de ne rien décider, de ne rien faire. Est-ce que c'est la bonne attitude ?
Je ne sais pas si c'est la bonne attitude. Ce qui m'étonne en ce moment, je dois le reconnaître, c'est le grand silence de la Banque nationale suisse, qui est devenue la grande muette dans cette histoire, où on n'entend plus parler de qui que ce soit dans ce domaine. Alors j'ai vu une intervention récemment de M. Hildebrand sur les préoccupations par rapport à l'immobilier en Suisse. Bon, ça m'a rassuré sur l'immobilier en Suisse, mais il me semble que quand même, quelque part, il faudrait s'exprimer sur ce qui se passe par rapport à l'euro, par rapport au franc suisse, etc. Et j'entends rien venir de la BNS. Je constate aussi que Bernanke a décidé, lui, de faire des conférences de presse mensuelles aux États-Unis.
Bernanke,
de la Banque Centrale Américaine, donc de faire des conférences de presse mensuelles pour informer les gens, au moins.
Ça, c'est très américain. En Suisse, on ne pratique pas comme ça.
Ouais, d'accord. Alors, je sais que le prédécesseur de M. Hildebrand disait un bon banquier central est quelqu'un qui ne fait rien.
Je suis d'accord avec ça,
mais il ne faudrait peut-être pas exagérer. Donc, il me semble que si on avait un petit peu plus de messages qui venaient de la BNS, ça serait pas totalement inutile.
Peut-être que vous serez entendu, Stéphane Garelli. On poursuit.